Alors bonjour. Je suis pas habitué de m'asseoir là, alors il y a du trafic plus là que ce côté-là, je pense. Mais c'est correct, c'est correct. J'ai-tu la manette pour les diapos? Merci, Dominique. Alors, c'est bon de se voir ce matin, surtout en considérant là, avec le froid qu'il fait, c'est. C'est pas, au moins le soleil, ça nous aide à voir embrayer, mais si, je pense que s'il n'y avait pas eu de soleil, on aurait dit, ça aurait été plus hésitant. Mais en tout cas, c'est une occasion ensemble de pouvoir, justement, célébrer notre Dieu et aussi d'avoir un temps dans sa parole. Alors, je ne sais pas où commencer, là. Je veux dire, c'est que j'entreprends une nouvelle série où c'est que je me suis engagé à traduire du matériel il y a long, en tout cas l'automne passé. Puis là, je me trouvais que je manquais de temps. Fait que là, j'ai essayé de comment est-ce que je peux faire les deux? Alors, j'ai dit, OK, bon, ben, mettons que si je traduisais, puis je me servais de ce que je traduis pour faire un message, ça me sauverait du temps. Puis, c'est vrai jusqu'à un certain point, mais c'est que c'est un défi parce que là, c'est pas comme ça que je préparais un message normalement. Ça fait que, alors, je vais vous demander d'être compatissant à mon égard. Puis, mais je suis convaincu qu'on va pouvoir en profiter pareil, OK? Parce que c'est de sa parole. J'aimerais lire dans le psaume 119, à partir du début, juste pour se situer. On a chanté quelques chants qui se rapportent à la parole. Puis, on a besoin de réaliser à quel point la parole de Dieu est importante pour Dieu. Elle est si importante que il s'est révélé, il s'est fait connaître par écrit, par l'entremise de sa parole. Alors, le psaume 119, à partir du début, heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions. Ne m'abandonne pas totalement. Et on pourrait continuer jusqu'à la fin du psaume. Puis là, on pourrait dire Amen, puis s'en aller chez nous ou aller voir hockey ou dîner. Parce que c'est le psaume le plus long. Mais le psaume est centré, concentré, puis. Le psalmiste, de diverses manières, exprime, si on pourrait dire, l'importance de la parole de Dieu dans sa vie et l'impact que ça a. Et tout au long des Écritures, on voit que la parole de Dieu est mentionnée à maintes et maintes reprises comme étant une partie intégrante de la vie du croyant. Dans le cours qu'on a commencé il y a quelques semaines, lire et étudier la Bible, on commence avec ça. C'est là qu'on se retrouve dans un passage, puis on regarde que pendant un certain temps, la loi a été négligée, c'était quelque part dans le temple, puis personne ne s'en préoccupait. Elle était à quelque part dans le temple. C'est pas comme aujourd'hui où chacun d'entre nous, on a la possibilité d'avoir la parole de Dieu dans notre langue. On peut avoir même plusieurs versions. Mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Alors, on a un privilège d'avoir la parole de Dieu dans notre propre langue. Imaginez-vous s'il fallait apprendre l'hébreu puis le grec pour lire la parole de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous, on aurait dit, « Ouais, je pense que malgré mes vaillants efforts, là, je comprends pas grand-chose. » Puis, c'est un peu dans cette optique-là que j'aimerais partager quelques pensées. Je ne vais pas faire un exposé du psaume 119, mais à partir du prémisse du fait que je suis convaincu que la Bible, qu'on l'ait, on pourrait dire, comme un livre ou sur une application sur nos téléphones ou ordinateur ou quoi que ce soit, la Bible exprime la pensée de Dieu. Puis, il a fait mettre par écrit pour le bénéfice de nous, l'humanité. C'est un peu comme s'il nous avait écrit une lettre. Et quand quelqu'un nous écrit une lettre, dépendant de qui il s'agit, eh bien, si vous êtes comme moi, vous allez être intéressé à savoir, bien, cette personne-là s'est donné la peine de m'écrire. Alors, je vais prendre la lettre puis je vais la mettre sur la tablette. N'est-ce pas? Pour un moment plus propice, quand ça va me tenter. Hein? Bien, probablement que ce n'est pas ça qu'on fait. Hein? On va ouvrir la lettre, puis on va la lire, puis même on va peut-être la relire. Pour être certain qu'on a bien compris, puis on va la relire à nouveau. Puis, en tout cas. Alors, quand on s'apprête à regarder ce que Dieu nous a écrit, ce qu'il a écrit à l'humanité, mais il a écrit à nous, on voit qu'il veut une relation particulière, spéciale avec chacun d'entre nous. Il veut voir comment est-ce que nous, en tant que membres de l'humanité, comment est-ce qu'on va répondre à ce que c'est qu'il nous dit. Puis après qu'on a répondu à ce que c'est qu'il nous dit, eh bien, lui, en retour, nous revient, puis il veut continuer cette œuvre dans notre vie, puis entretenir cette relation. Alors, mon but dans cette série, c'est de présenter ce que la parole nous dit, des vérités de base essentielles pour mettre un bon fondement à ce que nous croyons. C'est un enseignement qui va nous permettre justement de mieux comprendre, saisir, réaliser quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'il cherche à nous communiquer, qu'on est appelé à saisir, à comprendre, à croire, à appliquer dans notre vie? Et alors, on va regarder l'enseignement biblique fondamental. L'enseignement biblique fondamental, dans un premier temps, pose un fondement solide. Et ensuite, nous guide du début à la fin. C'est ce que On va dire, on va mettre comme notre point de départ ensemble. Dans un premier temps, l'enseignement biblique fondamental pose un fondement solide. Dans le monde dans lequel on vit, il semble y avoir une confusion assez générale au sujet de la Bible. La confusion au sujet de la Bible obscurcit la vérité aux yeux et au cœur de nombreuses générations à travers les âges. Quand que j'ai grandi, à un moment donné, ouais, j'ai un parcours, là. Mais je me souviens que mes parents s'étaient fait dire, lisez pas la Bible. Lisez pas la Bible, là, parce que là, si vous lisez la Bible, vous allez dormir fou. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On lit pas. Ou peut-être qu'on est un peu d'un cœur rebelle où on dit, hey, s'il me défend quelque chose, ça veut dire qu'il devrait faire le contraire. En tout cas. Puis, dans un sens, là, notre entourage, même nous-mêmes, on se donne toutes sortes de raisons pour ne pas lire la Bible. Okay? Puis, ces raisons-là, c'est comme si on arrivait, puis, ça, c'est ma raison pour ne pas lire la Bible. Fait que là, je mets ça sur la Bible, puis à un moment donné, puis là, je dis, qu'est-ce que tu comprends de la Bible? Rien, ou presque rien. Je vois une couple de mots, là, mais ça ne me dit pas grand-chose. Alors, voici quelques... Excusez-moi. On voit l'enseignement biblique. Pourquoi il y a tant de confusion au sujet de la Bible? Et là, c'est peut-être un peu petit, mais vous l'avez sur votre feuille, si vous avez une feuille, si vous n'en avez pas, mais je regrette. Mais il s'agit d'un livre ancien qui semble avoir peu de choses en commun avec notre vie d'aujourd'hui. Ça ne s'applique plus aujourd'hui, ça fait qu'on laisse faire. Elle est déroutante ou embêtante parce qu'elle ne semble pas être écrite dans un bon ordre, selon l'opinion, mon opinion ou l'opinion des gens. Fait que on ne sait pas comment s'y prendre, où commencer, où finir. Elle est interprétée de différentes manières par différentes personnes. Qui a raison? Moi, je ne veux pas me casser la tête, ça fait que je vais laisser faire. Elle vise à contrôler chacun par une liste de choses à faire et à ne pas faire, de règles et de directives. Fait que je ne veux pas me faire dire quoi faire et ne pas faire. Ça fait que je vais laisser faire. Ça ne fonctionne pas. De nombreux chrétiens ne pratiquent même pas ce qu'ils prêchent ou ce qu'ils disent croire. Alors, ça ne fait aucune différence dans leur vie, ou très peu. Fait que, pourquoi je devrais m'en préoccuper? Ce n'est qu'un des nombreux livres religieux qui explique comment parvenir à Dieu. Alors, on a le choix. Puis, on va les consulter, puis on va prendre celui qui fait le mieux notre affaire. Ou il y en a tellement qu'on ne veut pas se casser la tête à savoir lequel est le bon. Les médias, l'université et la science s'en moquent, la ridiculisent. Alors, eux, ils sont peut-être plus connaissants que moi. Fait que si eux autres, ils apprennent pas au sérieux, pourquoi est-ce que moi, je devrais apprendre au sérieux? Et ensuite, elle a été utilisée pour justifier les abus, la manipulation et le contrôle des autres. Et vous pouvez peut-être probablement penser à d'autres raisons pourquoi on s'est fait dire ou on a entendu pourquoi on ne devrait pas lire la Bible ou la prendre au sérieux. Mais chacune de ces raisons-là, bien, c'est un peu comme je l'ai montré tantôt. En réalité, ça obscurcit, ça fausse le message que Dieu a révélé, a essayé de nous communiquer. Puis, c'est pas surprenant qu'on comprend pas le message, parce que il est, dans un sens, voilé, ou on peut pas en prendre en considération ce qu'elle a à nous dire. Parce qu'on l'approche avec notre perspective à nous. On décide, on grandit avec un certain bagage, puis on croit certaines choses, puis là, on se dit, bien ça, c'est ces choses-là. Puis quand je lis la Bible, elle s'est filtrée par ce que moi, je pense, au lieu de la laisser dire ce qu'elle a à dire. C'est pour ça que on peut être hésitant de la lire, de l'examiner, de l'étudier. Mais la chose est, c'est que Dieu nous a écrit cette lettre-là. Ça veut dire, il s'est révélé. Il a essayé de communiquer, de nous faire part de ce qui est sur son cœur, dans ses pensées, son souci pour nous. Dans cette première série, on va regarder, en tout cas dans les occasions que je vais prêcher, ça va être à peu près cette partie-là. OK? Mais ça se fera pas, on va prendre un petit peu de temps, là, mais en tout cas. Parce qu'on veut mettre un fondement à ce que c'est que Dieu a révélé. Puis, si on veut comprendre ce que Dieu révèle, il faut s'y prendre dans un sens de la bonne manière. Bien souvent, quand on parle avec les gens, on les encourage de commencer à lire où? L'Évangile de Jean. Bonne réponse. Parce qu'on se dit, bon, ben, s'ils lisent l'Évangile de Jean, eh bien là, tu sais, ils vont comprendre. Puis, je ne dis pas que c'est mauvais de dire ça. Mais, considérons un instant Jean 3, 14 à 15. Et là, la personne arrive à ce passage-là et dit: et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il lit ça pour la première fois. Il n'y a aucun bagage. OK? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, vous pensez, de la personne qui lit ça pour la première fois, qui n'a aucun bagage? En passant, dans les deux premiers chapitres de l'Évangile de Jean, il y a 50 références d'événements, de personnes, de places qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament. OK? Dans les deux premiers chapitres. Parce que quand Jean écrit, il écrivait sans doute pour le bénéfice de son peuple, premièrement, les Juifs, qui avaient était exposé, il y avait une certaine connaissance de l'Ancien Testament. OK, mais revenons à Jean 3, 14, 15. La personne est en train de lire, mais la première question probablement qu'elle se pose, elle dit, « Mais c'est qui ça, Moïse? D'où est-ce qu'il devient tout d'un coup, là, lui? Puis, pourquoi est-ce qu'il est dans le désert? » Puis, ça parle d'un serpent, là, tu sais. Ouf! Il semble que... En tout cas, pour certains, là, un serpent, là, c'est que tu évites ça complètement. Dire, tu fuis. Puis, en plus, pourquoi est-ce que le serpent est élevé? Est-ce qu'il l'adore? Puis là, bien, ça parle du Fils de l'homme. Mais c'est qui, ça? Puis, s'il y a un Fils de l'homme, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une fille de l'homme? Une fille de l'homme? Et puis, on pourrait continuer comme ça. Puis là, c'est juste dans ces quelques... Même c'est le verset 14. Hein? Je vais s'emprunter le... J'avais besoin de ça ce matin. Bien, pas je ne sais pas le titre comme tel, là. Mais je savais que j'avais rencontré Théo une couple de fois, puis il se promenait avec une brique, là. Puis j'ai dit, tu lis ça? Mais oui, oui. Waouh! Tu es plus courageux que moi. En tout cas. Mais alors, un matin, ça donne que je le vois encore avec un livre. T'sais? Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, quand tu prends un livre comme ça, là, comment est-ce que tu le lis? Est-ce que tu l'ouvres quelque part ici, là, puis tu lis une couple de mots, puis après ça, un peu plus loin, ou en avant, puis tu sais, pour avoir une idée de l'histoire? Il dit non. Il dit, commence au début, puis on passe à travers. Hein? Qui d'entre vous lisait de la même manière que Théo? Hein? Ben, parce que si on veut avoir, on va dire, le déroulement de l'intrigue, puis des personnages, puis toute l'histoire, eh bien, on commence au début, puis on s'en va vers la fin. On ne saute pas d'un chapitre à l'autre, tout mêlé, puis après ça, on dit, qu'est-ce qui s'est passé au juste, là? C'est quoi l'histoire? Il me semble que c'est mêlant. Me semble que ça n'a pas d'allure, ça ne se tient pas, cette histoire-là. Puis, bien souvent, n'est-ce pas la manière qu'on va lire la Bible? On prend un verset ici, un verset là, un chapitre ici, un chapitre là, puis là, bien, c'est tout entremêlé. Puis là, on a dit, mais c'est quoi au juste, là? C'est qu'est-ce que c'est que Dieu essaie de me communiquer? Hein? Alors, j'exagère peut-être un peu, là, mais c'est ça. Heureusement que Dieu, quand il s'est révélé, il s'est révélé d'une manière chronologique suivie. Un peu comme un livre qui révèle, on va dire, une histoire quelconque. Oui, il y a, c'est certain que des fois, à cause de la manière que la Bible est arrangée, on va dire, ça peut être mêlant, mais quand on le met, on met ça dans l'ordre chronologique, les choses tombent en place. Alors, quand on commence peut-être qu'on est limité, on ne voit pas grand-chose, on ne comprend pas grand-chose, mais là, on voit que en regardant d'un peu plus près, en enlevant les prétextes, les excuses qu'on a pour ne pas lire, bien on découvre son caractère et son cœur aimant pour l'humanité. Puis plus qu'on lit, plus qu'on regarde et que ça devient plus clair, on voit quelle est l'origine de tout le mal et tous les chagrins de notre monde. On continue, puis là, bien, on voit d'où nous venons et quel est notre véritable but dans la vie, son assurance que nous pouvons être acceptés par Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance de regarder la Bible à travers les yeux de son auteur, lui-même, Dieu? Tout comme on construit une maison, j'ai déjà participé à des projets de, pas nécessairement de construction à partir de zéro, là. Mais il y en a peut-être d'entre vous puis, qui l'ont fait, qui ont eu cette expérience-là. Puis, combien ont commencé par le toit? Puis là, bien, on demande aux gens de tenir le toit pendant qu'on va faire le reste. Hein? Non, on commence en mettant un fondement solide. Après ça, on va ériger les murs, puis on va finalement arriver avec le toit. Alors, le fondement de l'Évangile, c'est un peu la même chose. On bâtit, on érige, puis... L'objectif dans, on va dire, de mettre la base ou le fondement, c'est de qui Dieu est ou qui est Dieu. Qui nous sommes par rapport à Dieu. À quoi ressemble une relation avec Dieu. Puis pour ce faire, dans cette portion aussi, qui est intitulée « Établir 101 », eh bien, on couvre la création, la catastrophe, le contrat, parce que ça, c'est un C, là. Je voulais juste garder un C, ça, mais on parle des alliances, et Christ. Alors, on voit que Dieu s'est révélé, il a mis des éléments en place pour révéler sa pensée, son plan, sa stratégie. Et le thème central de sa parole, c'est qui? C'est Jésus, mais c'est lui-même, OK? Aussi. Puis, c'est la personne clé. Quand on... C'est vrai qu'il y a des histoires, puis on peut comme prendre chaque histoire puis l'isoler en soi, mais c'est comme essayer de lire un livre, un chapitre ici, puis un autre chapitre, puis voir qu'il n'y a aucune connexion, aucun rapport. Mais il y a un tout. C'est un peu comme... J'ai essayé de trouver un casse-tête, mais il n'avait pas un spécial. Mais ça, c'est un casse-tête différent, là. Mais c'est comme chaque vérité en soi est importante, mais ce n'est pas complet. Tu vois? Puis quand que Dieu se révèle, il nous révèle, on pourrait dire, des morceaux du casse-tête. Puis il nous donne, on va dire, une direction, une idée pour qu'on puisse assembler les morceaux pour avoir un produit fini selon son concept, son idée à lui. Alors, c'est un peu dans ce sens que, au fur et à mesure qu'on est exposé à la vérité, puis que là, on continue, puis Dieu nous donne un autre morceau pour joindre au morceau précédent, et on progresse pour arriver à un produit fini, dire voici l'ensemble de la vérité pertinente, importante, selon ce que Dieu a révélé. Et si nous manque trop de morceaux dans le casse-tête, est-ce qu'on va finir avec un produit fini? bien, on va se retrouver avec quelque chose qui, dépendant de combien de morceaux qui nous manquent, ça ne ressemblera pas avec ce que c'est qu'était l'intention première du concepteur du casse-tête. Alors, il faut s'assurer que lorsqu'on approche la parole de Dieu, qu'on la lit, qu'on saisisse justement les morceaux que Dieu a révélés, puis voir comment ils sont assemblés pour faire un tout. Et s'il manque des morceaux, c'est normal qu'on ne pourra pas bien comprendre, saisir l'ensemble des vérités que Dieu a révélées. Le fondement 101, ce que nous allons voir, il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui vont dire, bien ça, là, c'est tellement élémentaire que c'est pas pour moi. Je connais tout ça, moi. Bien, tant mieux. Tant mieux. Mais la chose est, c'est que quand on s'adresse à un auditoire comme vous, je vous connais peut-être par votre nom, puis ou peut-être que non, des fois, je peux me mêler, là. Mais je ne connais pas votre cœur. Je ne sais pas où vous en êtes rendu dans votre cheminement, dans votre relation avec Dieu. Alors, la meilleure manière de procéder, c'est de ne rien prendre pour acquis, de dire, ils sont tous rendus là. On est tous rendus à ce niveau-là. Ça fait qu'on va commencer à ce niveau-là. Mais la chose est, c'est qu'il y en a qui ne sont pas à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de classer qui est à quel niveau. C'est pour ça qui est important. C'est-à-dire, on va commencer à la base. On va commencer au point zéro, puis on va progresser ensemble. Puis, disposés à écouter ce que la parole de Dieu a à nous dire, puis ramasser les morceaux que Dieu a révélés pour bien assembler le casse-tête du message qu'il a voulu nous laisser, nous communiquer. Alors, l'enseignement biblique fondamental pose une base solide sur laquelle construire. Il faut commencer avec une bonne fondation. Ensuite, l'enseignement biblique fondamental nous conduit du début à la fin. Et ça va un peu avec ce qu'on a illustré tantôt avec le livre, que ce soit celui-ci ou la parole. Alors, il serait bon de commencer avec... Quand on approche la parole, au moins, commencer au début, au commencement. OK? Alors, ça va me prendre, deux volontaires. C'est-à-dire, je peux commencer moi-même, là, ici, là. Après ça, il va avoir un parce que j'ai pas les bras assez longs. OK. Alors, vous voyez, il y a cinq bonhommes. Ça, c'est, mettons qu'on est en, c'est marqué 2000, là, mais mettons qu'on est en 2024. Hein? On est bien en 2024? OK. Parce que peut-être j'aurais pu dire 2023. Mais là, ces cinq bonhommes-là représentent, on va dire, cinq générations. OK? Alors, si on prend, mettons, que la première génération, c'est un enfant de 10 ans. Alors, il est en 2024. Ses parents, à l'âge de 30 ans, ils l'ont eu. Alors, c'était en 2014, juste pour avoir simplifié les choses. Mais eux aussi avaient des parents. La génération précédente, il y avait aussi 30 ans quand ils les ont eus. Ça fait que on se retrouve en 1984. Après ça, eux, ils ont eu des parents, mettons, qu'ils ont eu juste pour simplifier les affaires, encore 30 ans. Alors, c'est en 1954. Et eux, ils ont eu des parents, mettons, 30 ans avant, en tout cas, 1924. Et cinquième génération, on se retrouve en 1894. Okay? Cinq générations, on va arrondir le chiffre, il y a 130 ans d'histoire. OK, dans ce petit, dans ce bout-là. Là. Laissez-moi vous poser la question maintenant. La première génération, l'enfant de 10 ans, combien d'informations pourrait-il révéler au savoir concernant ses parents? Il a vécu avec eux autres, donc il doit avoir, en général, il devait avoir une idée. Là. Il faut savoir distinguer entre ton père et sa mère, l'expérience, en tout cas. Puis, en tout cas, mais là, si on recule d'une génération, ses grands-parents, est-ce qu'il va les connaître aussi bien que ses parents? Probablement non, à moins qu'il y ait resté longtemps avec eux, ou qu'il reste assez proche et qu'il les voit souvent. Mais là, si on recule d'une autre génération, puis on recule, jusqu'à la cinquième génération. Alors, probablement qu'il y aurait très, très peu d'informations, à moins que ses arrière-arrière-grands-parents ils ont marqué l'histoire ou ils ont écrit un journal, puis c'était la coutume dans ce temps-là, puis là, ils peuvent lire ce que leur arrière-arrière... Mais dans la plupart des cas, là, je dirais que ça serait assez mince quand même. Puis, si on regarde ça, cinq générations, combien de parmi ces cinq générations-là peut nous dire comment c'était au début des temps? Besoin de deux volontaires. Tenir ce bout-là. Et dérouler ça. Je m'excuse de te faire faire des exercices, là, en tout cas. C'est parce que, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas un bras assez long. Okay? Alors, on vient de voir cette partie ici. Okay? Et là, on a un tableau chronologique qui nous amène au début des temps, OK? Qui est environ 6 000 à 10 000 ans. C'est vrai qu'il y en a qui disent il y a des millions d'années, là, mais disons, quand on regarde la Bible, on est sauf de dire c'est 6 à 10 000 ans, OK? Alors, ces personnes-ci, là, ces cinq générations-là, qui peut révéler qu'est-ce qui est arrivé ici, là? Puis si même on va un peu plus loin, parce qu'on a certains détails. OK, c'est là. Alors, on a ici la Deuxième Guerre mondiale, le Canada en 1867. Darwin, lui, a écrit son livre sur l'évolution en 1859. Est-ce que Darwin pouvait vraiment révéler ou expliquer ce qui s'est passé au début? Pourquoi? Il n'était pas là. Alors, il était limité. Oui, peut-être qu'il peut avoir des idées, mais il ne peut pas nous garantir que c'est ça qui est arrivé là. Hein? Puis, alors ici, on a des religions. Les catholiques en 325, les musulmans en 610, la Bible en latin à 400, puis là, en tout cas, est-ce que les dirigeants de ces religions-là étaient là au début? Non. Alors, ils ne sont pas dans une position d'une manière catégorique, dire voilà ce qui est arrivé au début. OK, merci les gars. Je vais vous soulager. Mais vous avez remarqué qui était au début? Dieu. Hein? Et quand on ouvre la Bible, le premier verset, ça nous dit quoi? Au commencement, Dieu. Merci. Alors, qui peut nous dire qu'est-ce qui est arrivé au commencement? Dieu. Prenons l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. Combien d'entre vous avez combattu durant la Deuxième Guerre mondiale? Il y a une liste en arrière de personnes, mais ils ne sont pas ici. Ils sont décédés. Alors, on ne peut pas leur demander. Mais s'il y en avait un qui était vivant, est-ce qu'on pourrait lui demander, hein? Bon, ben, peux-tu me donner des détails de ce que c'est que tu as vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Mon beau-père a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est plus vivant, alors je ne peux pas y demander, mais je me souviens que, sans donner trop de détails, parce que ça venait chercher, mais il aurait pu m'en raconter. Pourquoi est-ce qu'il pouvait faire ça? Il était là, c'était un témoin oculaire de ce que c'est que lui a vécu. Et quand qu'on arrive à la parole, qu'on vient de lire ou citer le verset, au commencement, Dieu. Étais-tu là? Est-ce que n'est-il pas un témoin oculaire? Est-ce qu'il n'est pas dans une position de dire, voici ce qui est arrivé? Puis, du fait qu'il nous a laissé sa parole, eh bien, il nous révèle, en tant que témoin oculaire, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui est arrivé. Comme on peut prendre un livre, mettons, de quelqu'un qui a expérimenté la Deuxième Guerre mondiale ou même avant ça, puis ils ont écrit leur expérience personnelle. Ils ne sont plus vivants, mais ils ont légué, on pourrait dire par écrit, ce qui est arrivé. Et c'est ce que Dieu a fait par l'entremise de sa parole. Alors, le fondement, peut-être oublié de vous montrer des slides, mais on l'a vu en avant. L'enseignement biblique fondamental pose un fondement solide puis nous guide du début à la fin. Et Dieu veut avoir, désire une relation avec chacun d'entre nous. Et il a communiqué par l'entremise de sa parole. Alors, c'est à nous de prendre le temps de lire, d'examiner, de bien comprendre, de saisir les vérités fondamentales, précieuses que Dieu nous a laissées, les morceaux du casse-tête pour bien l'assembler, afin que on ne soit plus, si on pourrait dire, dans le brouillard par rapport à ce que c'est qu'il nous a dit. On ne veut pas se retrouver, comme mentionné tantôt, avec une Bible qui ne nous dit rien parce que on a déjà déterminé ce que l'on voulait croire, ce qu'on voulait, ce qui était vérité ou non. Le Seigneur nous aide justement à continuer dans notre cheminement et de réaliser que cette relation qu'il veut avoir avec nous, ça nécessitait la mort de son Fils. Subir le châtiment que l'on méritait. Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen par lequel on pouvait être réconcilié avec Dieu. Sauf que par le sacrifice sanglant du Fils unique de Dieu. Fait chair. Il a vécu une vie parfaite. Il a pris sur lui notre condamnation. Et que Dieu nous invite à accepter la solution qu'il a préparée d'avance, qu'il a révélée à travers sa parole. Et il nous invite de placer notre confiance en Jésus-Christ. Et de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. De recevoir ce cadeau gratuit de la vie éternelle par la foi. Prions. Père éternel, merci pour qui tu es. Merci que, sachant notre condition de condamné, de perdu, de sans espoir, tu as révélé dans ta parole ton histoire de comment tu voulais être réconcilié avec nous, êtres humains. Et merci d'avoir envoyé ton Fils pour subir le châtiment que l'on méritait. Et merci que par la foi en lui, la confiance dans cette provision unique et sans pareil que tu as pourvue, qu'on peut être réconcilié avec toi. Et cette réconciliation, eh bien, c'est pour l'éternité, pour toujours. Et merci que tu nous as fait cette grâce. Peux-tu continuer à travailler dans chacun de nos cœurs, nos pensées, et que par ton esprit, on puisse s'aligner avec ta parole que tu as bien voulu révéler par écrit dans la Bible. Accompagne-nous de jour en jour. Fais-nous grandir, fais-nous saisir, comprendre, connaître qui tu es de plus en plus. À la gloire de ton nom. Amen.